plaît. Je vous lis d'abord le passage intégralement et dans une traduction volontairement littérale qui fait mieux ressortir les rythmes et la manière de parler du Christ et des apôtres. Donc Jésus vient dans la maison de Pierre, il voit sa belle-mère gisant, fiévreuse. Paf, 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 c'est décrit en deux coups de cuillère à peau, il n'y a pas d'édulcoration. C'est bref, c'est accessoire. Et il touche la main, et la fièvre la laisse, et elle se réveille, et elle le servait. C'est une espèce de quatrain. C'est quelque chose de poétique là-dedans et de brutal. Elle touche sa main et la fièvre la laisse et elle se réveille et elle le servait. Les quatre propositions sur le même plan. Sauf que la dernière expression, elle le servait, a une connotation presque miraculeuse. On voit que elle le servait est comme une forme, une sorte de conversion en quelque sorte. Elle se met à le servir comme quelques disciples, nous allons le voir après, aller le suivre. C'est une manière, servir est une manière de suivre aussi. Je continue le texte. Le soir venu, il lui présente de nombreux démoniaques. Il jette dehors les esprits d'une parole, et tous ceux qui vont mal, il les guérit. Pour accomplir le mot dit par le prophète Isaïe, lui-même, nos infirmités, il les prend, nos maladies, il les porte. Par ces deux versets, l'évangéliste nous montre que le Seigneur et le Créateur, le Maître de toutes choses. Non seulement il guérit, il ressuscite, si je puis dire, la belle-mère de Pierre, mais en plus, il chasse les démons sans même les toucher. Juste avec une parole, il commande, il est, et cela existe. Les démons sont chassés. Ceux qui vont mal sont guéris. Se dit d'ailleurs, ce qui ne nous étonne pas, puisque Isaïe l'avait déjà prédit, il a pris sur lui nos infirmités, nos maladies, il les porte. Vous vous rappelez certainement les versets du serviteur, ce qu'on appelle le serviteur souffrant, dont on reprend les quelques paroles à chaque liturgie au moment de la proscomidi, de la préparation des saints dons. Mais je continue, c'est là où je voudrais en venir. Jésus voit les foules nombreuses autour de lui. Quand il voit, c'est-à-dire qu'il les remarque, c'est-à-dire que son regard s'abaisse sur eux. Il y fait attention. Et l'attention de Dieu, c'est un acte d'amour. Il les regarde, il les voit, il est compatissant, il s'incarne en quelque sorte en eux. Et il leur donne de s'en aller de l'autre côté, d'aller sur l'autre rivage. Entendez, premièrement, d'aller sur l'autre rivage en barque et d'aller de l'autre côté du lac de Tibériade. Mais dans le contexte évangélique, on le rencontre à plusieurs reprises, aller de l'autre côté, c'est pas seulement franchir une distance à travers la mer, c'est aller de l'autre côté des choses. Quitter ce monde, ce niveau d'existence, qui est l'existence humaine déchue, matérielle, psychique, physique, psychologique, matériel, pour nous élever, pour aller sur un autre rivage, dans une autre dimension, qui est la dimension dans laquelle le même Créateur nous avait jadis créés à l'origine des temps, avant que ce monde créé par lui ne soit déchu de son état pour être dans l'état que nous connaissons aujourd'hui et nous avons en partie ou en grande partie ou totalement à souffrir. Donc, le Seigneur ordonne de aller de l'autre côté. Et c'est ce verset-là que je voudrais que nous retenions. Il faut aller de l'autre côté des choses. Il faut voir la réalité. La réalité. La réalité physique, c'est celle que nos sens nous indiquent. Mais nos sens nous indiquent qu'une réalité est édulcorée. Une autre réalité existe. Et c'est à celle-ci, c'est celle-ci qu'il faut atteindre. C'est celle-ci qu'il faut désirer, qu'il faut chercher à voir. Et tout l'évangile lu à cette optique-là montre qu'il est urgent de faire cette démarche. Et c'est cela la conversion. La conversion, la métanoïa, c'est le retournement intérieur qui permet d'abandonner son regard déchu, je n'ai pas d'autre terme, ce regard purement humain, si vous voulez, pour avoir un autre, ce regard charnel, pour avoir l'autre regard, le regard spirituel. On a eu, il y a quelques jours, cet évangile de si ton œil est sain, quelle merveille tu verras, si ton œil est déchu, quel malheur. Le regard saint, c'est pas simplement d'avoir un regard chaste sur les uns et sur les autres, sur le monde. C'est d'avoir le regard saint, c'est d'avoir le regard spirituel, d'avoir le regard sur les choses éternelles, sur la vie divine, et sur notre destinée qui commence aujourd'hui, que nous expérimentons aujourd'hui. La preuve en est que l'évangile continue. Donc, il voit les foules autour de lui, il leur donne de s'en aller de l'autre côté, n'est-ce pas ? Un scribe s'approche et lui dit « Maître, je te suivrai où que tu t'en ailles. » Ça, c'est une bonne intention. C'est louable. Ça montre une bonne volonté. Mais qu'est-ce qu'il a compris, ce scribe ? Il a compris qu'il allait de l'autre côté, sur la terre de Génézareth, des cochons, là, de Gadara, sur la terre de Gadara, de l'autre côté du lac. Sûrement que c'est ça qu'il a compris. Mais le Seigneur, lui, après avoir annoncé ce qu'il vient d'annoncer, qu'il fallait aller de l'autre côté, ne s'enferme pas dans cette notion géographique. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Ça veut dire quoi? Les renards, les animaux, et autrement dit aussi les hommes, encore pas des animaux, mais que toute la création a été établie aujourd'hui sur terre et où il s'installe. Mais le Fils de l'homme, lui, le Christ, n'a pas où repose la tête, c'est-à-dire il n'est pas de ce monde. Il est dans ce monde. Il a pris notre nature, comme nous l'avons chanté à plusieurs reprises tout à l'heure pendant la liturgie, mais il n'est pas de ce monde. Son royaume est ailleurs, et il veut nous mener ailleurs. Donc si nous voulons le suivre dans sa mission, si je puis dire, de guérison, qui ne sont que des signes, ou quand on le voit guérir la fameuse belle-mère, quand on le voit guérir les démoniaques, ou ceux qui sont atteints de maladies, si c'est ça que nous cherchons, ça, les animaux l'ont aussi dans leur tanière et les oiseaux dans leur nid. Mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas au repos, il n'a pas de lieu sur terre. C'est pas tout à fait juste. Il a un lieu sur terre où effectivement il reposera un jour. C'est dans le tombeau. Là, il reposera sa tête, c'est-à-dire que momentanément, il s'endormira de la mort. Mais pour en ressusciter, donc même là, le lieu n'est pas le repos de sa tête. Et si nous voulons le suivre, Contrairement à ce que pense jusqu'à présent le scribe, c'est pas en le suivant dans sa démarche humaine pour avoir du pain, pour bénéficier de guérison, pour recevoir des satisfactions, des améliorations dans nos conditions de vie, des visions, des d'espérance. C'est vraiment pour aller maintenant dans l'autre royaume, dans le royaume où est le Fils de l'homme. Un autre disciple lui dit, « Seigneur, autorise-moi à m'en aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui dit, et vous savez comment c'est violent, « Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. » C'est-à-dire, laisse à la terre ce qui est dans la terre, mais toi, suis-moi. Et suis-moi, c'est-à-dire, suis-moi où ? Eh bien, là où j'ai où me reposer la tête, si je puis dire. C'est-à-dire, viens dans le royaume des cieux, là où je suis. Et cette expression « suis-moi » ne peut pas ne pas nous évoquer, si nous y faisons attention, une sorte de procession. Les apôtres et les disciples le suivent. Ils vont de l'autre côté. Et ils sont, parce qu'ils décident de quitter ce monde, après il y aura l'appel des disciples, des apôtres. Ceux qui suivent le Christ, ils renoncent à ce monde, ils renoncent à ce monde de tanières et de nids où l'on fait la nidification. Il n'y a pas de jeu de mots avec nos prénoms. Ils abandonnent ça et ils suivent le Christ dès maintenant. Dans l'autre monde, en faisant une totale confiance en Dieu, en prenant ni bourse ni besace et en cheminant là où le Seigneur les conduit. Ce qui demande une foi absolue, pas simplement une espérance que Dieu nous accorde ce dont on a besoin, mais la certitude qui est une forme d'expérimentation de cette autre vie que le Seigneur nous accorde aujourd'hui. Quand vous avez cru dans les paroles que vous avez entendues tout à l'heure, que la descente de l'Esprit Saint, les dons que vous avez offerts, le pain et le vin, sont devenus le corps et le sang du Christ. Quand vous y avez communié, soit en déglutissant ce pain et ce vin devenu corps et sang du Christ, soit par votre adhésion à la prière et à la foi de l'Église, c'est ça que vous avez vécu. D'une manière, j'allais dire, insensible rationnellement, mais d'une manière réelle et perceptible par la foi. Et c'est à ce niveau-là que nous devons vivre, c'est ça, aller de l'autre côté. C'est ça, aller dans l'autre côté, comme le rapporte l'évangéliste. Et relisez nos vies, relisez la vie de l'Église, relisez les évangiles sous cette optique-là, et vous verrez que tout, jusqu'à l'Apocalypse, tout nous conduit à utiliser notre vie sur terre comme une gestation pour préparer quelque chose, pour nous ouvrir à une autre réalité, mais que l'essentiel est justement de s'ouvrir à cette réalité éternelle qu'est le royaume des cieux. L'Évangile, la bonne nouvelle, l'annonce que le Seigneur est venu nous apporter n'est pas une amélioration de notre condition de vie, sinon depuis 2000 ans ce serait un magnifique échec, enfin un échec retentissant tout du moins, à défaut de magnifique, mais il vient pour nous accorder une autre forme de vie, une autre manière de vie qu'on appelle, à défaut de mieux, mais c'est lui qui a inventé l'expression, le royaume des cieux. À lui sous la gloire, avec son Père éternel et l'Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.